Jean Bocasse, Décaméron, le frère quêteur ou le charlatanisme des moines. Certaldé, comme vous avez pu voir dire, est un village de la vallée d'Est, dépendant de l'état de Toscane. Quoique ce village soit aujourd'hui fort peu considérable, il n'a pas laissé d'être, autrefois, habité par un grand nombre de gentilshommes et de gens aisés. Un religieux de Saint-Antoine, nommé frère Ognon, et conventuel de Florence, avait coutume d'y aller tous les ans, une fois, pour y recueillir les aumônes des sots et des imbéciles. Il s'y rendait d'autant plus volontiers qu'il trouvait là quête abondante et qu'il y était bien reçu. Mais pour l'estime qu'on faisait de sa personne, et à cause peut-être de ce nom qu'il portait, parce que la terre de ce canton produit des meilleurs oignons de toute la Toscane. Ce frère Ognon, d'une petite taille, au visage enluminé de poils roux, avait l'humeur fort enjouée et quelquefois un peu gaillarde. Il était dans le fond fort ignorant, mais il parlait si bien et si facilement que qui ne l'aurait pas connu de près l'aurait pris pour un grand orateur, pour ne pas dire un Cicéron, pour un Quintilien. Aussi était-il aimé et bien reçu de tous les gens du pays. Étant donc allé à Certaldé, selon sa coutume au mois d'août, un dimanche matin, mais alors que le peuple des environs venait à la messe de la paroisse, il s'avança proche de la porte de l'église et parla en termes aux hommes et femmes qui étaient assemblés. « Vous savez, mesdames et messieurs, que vous êtes dans l'usage de donner tous les ans aux pauvres religieux de Saint-Antoine de vos blés et de vos revenus, les uns pour les autres, les uns peur, les autres beaucoup, chacun selon ses facultés et sa dévotion, afin que le bienheureux Saint-Antoine ait soin de votre bétail. Vous avez même accoutumé de faire chaque année du bien à ceux qui se sont affiliés à notre congrégation. Je viens donc ici, par ordre de mon supérieur, recueillir les effets de votre charité ordinaire. Ainsi donc, par la grâce de Dieu, vous êtes avertis de vous rendre le cet après-midi, aussitôt que vous entendrez le son des cloches. Je vous prêcherai et ferai baiser la Sainte Croix, selon la manière accoutumée dans ce même endroit, devant la porte de l'église. Et parce que je vous crois naître très dévot, à monsieur le bon saint, baron Saint-Étoine, mon patron, je vous montrerai, par grâce spéciale, une très belle et très sainte relique que j'ai jadis apportée moi-même de la Terre Sainte. C'est une des plumes de l'ange Gabriel. Il la laissa tomber dans la chambre de la Vierge Marie quand il vint lui annoncer qu'elle concevrait et enfanterait le Sauveur du monde. Pendant ce temps-là, deux drôles fins et découplés, l'un appelé Jean de la Bretonnière, l'autre Blaise Bissin, qui avaient entendu ce qu'il venait de dire au peuple assemblé, complotèrent de le faire pièce, quoi qu'il fasse de ses amis et de sa compagnie. La plume prétendue de l'aile de l'ange Gabriel les avait fait beaucoup rire. Ils résolurent de la lui enlever pour jouir ensuite de son embarras quand il voudrait la montrer au peuple. Frère Ognon dîna ce jour-là au château. Quand ils surent qu'il était à table, ils se rendirent aussitôt à l'auberge où il logeait et convinrent que l'un amuserait le valet du moine, tandis que l'autre chercherait la plume dans le sac du frère quêteur, se faisant d'avance un plaisir de voir la manière dont il s'y prendrait pour s'excuser devant ses auditeurs, auxquels il s'était engagé de la montrer. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire que je vous fasse connaître le valet que l'ami de Blaise s'était chargé d'amuser, tandis que Jean fouillerait dans son sac de religieux. Vous saurez d'abord que son nom était analogue à sa personne. On l'appelait Giuccio Balena, comme qui dirait gros animal. Plusieurs le désignaient pour le nom de Guccio Lourdeau, et d'autres ne le nommaient jamais que Guccio Cochon. Il avait la figure si grotesque que le peintre Lippopotamo, qui faisait tant de caricatures, n'en imagina jamais de plus singulière ni de plus bizarre. Quant à la lame, elle répondait parfaitement au bourreau fourreau. Son esprit était aussi épais que son corps. Et Frère Oignon, qui se plaisait souvent à égayer ses amis des sottises de ce valet, avait accoutumé de dire qu'il ne lui connaissait 9 défauts si considérables que seul aurait suffi pour éclipser ou ternir toutes les qualités, toutes les vertus qu'on a vu briller dans Salomon, Aristote, Sénèque, si ces grands hommes eussent été atteints. Représentez-vous, d'après cela, que cet homme devait être, que ce garçon. Quand on demandait à Frère Oignon quels étaient les 9 défauts qu'il trouvait en lui, il répondait par ces 3 mauvais vers de sa façon. Il est paresseux, gourmand et menteur, ivrogne, mécréant, voleur, sans esprit, raison ni valeur. Outre ces vices, il y en a plusieurs autres que je ne dis pas, ajoutait le moine. Ce qu'il y a de plus plaisant, c'est qu'il veut se marier partout où il se trouve et louer une maison pour y établir un ménage complet. Parce qu'il a la barbe noire, forte et assez bien fournie, il se croit beau garçon et s'imagine que toutes les femmes qui le regardent sont amoureuses de lui. Et si l'on voulait le laisser faire, il courrait après elles, comme les chiens après les lièvres. Il faut cependant convenir qu'il me sert avec beaucoup de zèle, car personne ne me parle jamais en secret qu'il ne veuille savoir ce qu'on me dit. Et s'il arrive que quelqu'un me demande quelque chose, il a tant de peur que je ne sache point répondre, qu'il est le premier à dire oui ou non selon qu'il le juge convenable. Mais reprenons le fil de notre histoire. Frère Oignon avait laissé cet habile valet à son logis, avec ordre de prendre bien garde que personne ne touchât à son bagage, et surtout à la besace où il tenait ses reliques. Mais Guccio Lourdeau, qui se plaisait plus dans les cuisines que dans le rossignol, ne se plaît sur les verts feuillages, surtout quand il savait qu'il y avait quelques servantes, était descendu dans celle de l'auberge où il avait vu une grosse cuisinière, mal faite, rabougrie, avec 2 horribles tétasses longues et pendantes, et un visage large, ratatiné, plus hideux que celui du plus laid des Bianchi. Petit bagage exposé à l'abandon. Quoi qu'on fût alors dans le mois d'août, et par conséquent au fort de la chaleur de l'été, il s'assit auprès du feu et commença d'entrer en conversation avec cette servante qui se nommait Nout. Cette vilaine créature enfumée, suante et toute barbouillée de graisse, ne laissa pas de lui paraître ragoûtante. L'empressement avec lequel il était allé la joindre fit qu'il laissa la chambre du frère Oignon ouverte et son petit bagage exposé à l'abandon. Quoiqu'on fût alors dans le mois d'août et par conséquent au fort de la chaleur de l'été, il s'assit auprès du feu et commença d'entrer en conversation avec cette servante qui se nommait Nut. Il débuta par lui dire qu'il était gentilhomme par procureur et qu'il avait près de 1000 écus, sans y comprendre ce qu'il devait bientôt donner pour achever d'acquitter certaines dettes. Il n'y eut point de bien qu'il ne lui fût dit de sa personne, et sans faire attention qu'il portait un chapeau plein de crasse et rongé des bords, que son habit était tout déchiré et tout rapiécé de morceaux de différentes étoffes, que sa culotte, percée en plusieurs endroits, laissait voir sa cuisse noire et velue comme celle d'un sanglier, que ses souliers s'en allaient en lambeaux, il ajouta, comme s'il eût été un gros seigneur, qu'il voulait l'habiller tout de neuf et la retirer du service, et que, sans avoir de grands héritages, il se faisait fort de lui procurer une honnête aisance. En un mot, il n'y eut point de magnifique promesse qu'il ne lui fit. Mais comme rien n'annonçait en lui qu'il en était en état d'en effectuer aucune, il ne réussit qu'à se faire moquer de lui et passer pour un véritable fou dans l'esprit de la servante. Blaise Pissin et Jean de la Bragonnière, ravis de trouver Giuccio Cochon occupé à en compter à la cuisinière du logis, entre sans peine dans la chambre du religieux. La première chose qui leur tomba sous la main fut précisément la besace où était la plume. Ils l'ouvrent, la fouillent, et trouvent une petite boîte enveloppée dans je ne sais combien de morceaux de taffetas, et dans la boîte une plume de la queue d'un perroquet, vert. Ils ne doutent point que ce soit celle que le moine avait promis de faire voir aux habitants de Cerdade, et il s'en empare. Il eût été d'autant plus facile au frère Oignon de persuader au peuple de cet endroit que cette plume avait appartenu aux ailes de l'ange Gabriel, que les perroquets étaient alors peu connus. Le luxe d'Égypte n'était point encore passé en Toscane. Comme il y est venu depuis, où il fait tous les jours tant de progrès pour le malheur de l'État. Mais, quand ces sortes de plumes auraient été connues de quelques personnes, il n'est pas moins vrai qu'il eût été saisi, est-ce aux moines de faire accroire aux habitants de ce canton que celle-là avait appartenu à l'ange Gabriel. Non seulement les oiseaux rares n'étaient point connus, mais je suis persuadé qu'on n'y avait jamais entendu parler de perroquet. La pure simple simplicité des mœurs anciennes régnait encore parmi eux. Après que les deux jeunes gens eurent pris la plume, pour ne pas laisser la boîte vide et mieux surprendre le frère, quêteur, ils s'avisèrent de le remplir de charbon qu'ils trouvèrent dans la cheminée. Ceux et celles qui avaient entendu l'avertissement du frère Oignon ne furent pas plutôt sortis de la grand-messe qu'ils se hâtèrent d'arriver chez eux pour emporter la nouvelle à leurs amis, leurs parents et leurs voisins. Et leur arrivée, on accourt en foule au lieu du rendez-vous. Quand le moine eut dîné et qu'il eut pris une heure de repos pour mieux digérer, instruit de la multitude de paysans qui l'attendaient avec impatience et dont une partie s'était rendue au château pour l'engager à venir plus tôt, il envoya dire un continent à Giuccio Balena de sonner les clochettes et d'apporter sa besace. Le valet avait de la peine à quitter la cuisine et la cuisinière, qu'il espérait toujours de pouvoir gagner, mais enfin, il obéit. Après que tout le peuple fut réuni, frère Oignon, qui ne s'aperçut point qu'on eût touché à la besace, commença sa prédication et dit mille choses sur le respect dû aux saintes reliques. Et quand il fut question de montrer la plume de l'ange Gabriel, il fit allumer deux cierges, ôta son capuchon, développa tout doucement la petite boîte et l'ouvrit ensuite avec beaucoup de respect, après avoir dit quelques mots en l'honneur de l'ange Gabriel et de sa relique. Surpris de n'y trouver que des charbons, il fronça le sourcil de dépit, mais il ne se déconcerta pas, il ne soupçonna point son valet de chambre avoir joué ce mauvais tour, parce qu'il n'avait pas assez bonne opinion de son esprit. Il ne lui fit même point le reproche d'avoir mal gardé sa besace. Il ne s'apprit qu'à lui-même d'en avoir confié la garde à un homme qu'il connaissait si paresseux, si peu obéissant et si dépourvu de toute pièce d'intelligence. Mais devant les yeux et les mains vers le ciel, il s'écria de manière à être entendu de tout le monde: Béni soit à jamais, mon bon Dieu, ta puissance, et que la volonté soit faite en tout temps et en tout lieu. Et après cette exclamation, il referme la boîte et se tournant vers le peuple, Messieurs et dames, leur dit-il d'un ton toujours élevé pour que tous les auditeurs puissent l'entendre, je dois vous dire que j'étais encore fort jeune lorsque je fus envoyé par mon supérieur chez les Orientaux, avec ordre de faire toutes les découvertes qui pourraient être avantageuses à notre pays en général et à notre couvent en particulier. Je partis de Venise, je passai par le bourg des Grecs, et après avoir traversé le royaume de Garbe et de Bangkok, j'arrivai, quelque temps après, en parlant, non sans être fort altéré, comme vous pouvez croire. Et de là, je vais en Sardaigne, mais que j'ai besoin de vous détailler ici les divers pays que j'ai parcourus. Il me suffira de vous dire que lorsque j'ai eu passé le bras de Saint-Georges et que j'ai traversé la Thun et la Bouffile, qui sont des pays fort habités, je passais dans la terre de mensonges, où je rencontrais beaucoup de moines et d'autres ecclésiastiques qui fuyant tous la peine et le travail, le tout par amour de Dieu et qui s'inquiétaient fort peu de la peine des autres, au moins qu'il leur en vînt quelque profit, ne dépensaient d'autre argent dans ce pays que de la monnaie sans coin. J'allais de là dans la Brousse, où les hommes et les femmes vont en patin pour par-dessus la montagne, où l'on est dans l'usage de biller les cochons de leurs propres boyaux. Et un peu plus loin, je trouvais un peuple qui portait le pain dans des tonneaux et le vin dans des sacs. Après avoir quitté ce peuple, j'arrivais aux montagnes de Bacchus, où toutes les eaux coulent en descendant, et je pénétrais si avant dans ce pays que je me trouvais dans très peu de temps dans l'Inde, Passarade, où je jure, par l'habit que je porte, je fis voler les couteaux, chose qu'on ne saurait croire à moins de l'avoir vu. Mais El Sergio, un gros marchand que je trouvais là occupé à casser les noix et à vendre des coquilles en détail, pourra vous confirmer cette vérité si vous le rencontrez jamais. Quant à moi, trouvant pas ce que j'allais chercher partout, je reboussai chemin pour ne pas voyager par eau, et revins par terre sainte, où le pain frais ne vaut que 4 deniers là-bas, livre, et où le pain chaud se donne pour rien. Je n'y fus pas plus tôt arrivé que je rencontrai le digne patriarche de Jérusalem, qui, pour honorer l'habit du baron Monsieur Saint-Antoine, que j'ai toujours porté dans mon voyage, me fit voir toutes les saintes reliques dont il est dépositaire. Et c'était en si grand nombre qu'il me faudrait trop de temps pour vous parler de toutes. Cependant, pour vous faire plaisir, je vous dirai un mot des plus remarquables. Il me montra, entre autres choses, un doigt du Saint-Esprit, aussi frais, aussi saint que s'il venait d'être coupé. Le museau du Séraphin qui apparut à Saint-François. Un ongle de chérubin. Une des côtes du Werbum Caro. Plusieurs lambeaux des habillements de sainte foi catholique. Quelques rayons de l'étoile qui apparut au nuage d'Orient. Une petite fiole pleine de la sueur de Saint-Michel lorsqu'il se battit contre le diable. La mâchoire de Lazare que Jésus-Christ ressuscita. Et puis une autre chose non moins curieuse. Et comme je lui fis présent de quelques reliques que j'avais en double, et qu'il avait inutilement recherché, il me donna en récompense une des dents de la Sainte Croix, une petite bouteille remplie du son des cloches du magnifique temple de Salomon, et la plume de l'ange Gabriel dont je vous ai parlé. Il me donna aussi des patins de Saint-Gérard de Granville, dont j'ai fait présent depuis peu à Gérard de Beaune, établi à Florence, qui a beaucoup de vénération pour cette sainte relique. Enfin, il me donna des charbons sur lesquels fut grillé le bienheureux Saint-Laurent. Et j'apportais toutes ces reliques à Florence avec beaucoup de dévotion et de respect. Il est vrai que mon supérieur ne m'a pas permis de les exposer en public, qu'auparavant il eût été bien prouvé qu'elles étaient véritablement les reliques dont elles portaient le nom. Mais depuis qu'on est assuré par les lettres qu'on a reçues du patriarche de Jérusalem et par différents miracles que ces reliques ont opéré, j'ai la permission de les faire voir. Et comme je ne veux les confier à personne, je les porte toujours avec moi. Or, vous saurez que pour conserver précieusement la plume de l'ange Gabriel, je la tiens dans une petite boîte. Les charbons qui servent à rôtir Saint-Laurent, je les tiens aussi dans une autre boîte qui ressemble si fort à la première que je les prends souvent l'une pour l'autre. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, car croyant emporter avec moi celle où est la plume, j'ai pris celle où sont les charbons. Au reste, je ne regarde point cet équivoque comme un pur hasard. Je la considère plutôt comme un effet de la volonté de Dieu. Lorsque je fais réflexion que la fête de Saint-Laurent est dans 2 jours, ainsi la Providence a voulu que pour réveiller en vous la dévotion que vous avez à ce saint martyr et pour vous disposer à célébrer dignement sa fête, je vous fais voir aujourd'hui charbon béant, béni, conservit à son martyr, au lieu de la plume de l'ange Gabriel, dont la fête est encore éloignée. Découvrez donc vos têtes, mes chers enfants, et venez avec respect voir cette auguste relique. Je dois vous dire que quiconque sera marqué de ce charbon en signe de croix, le feu ne le brûlera jamais, de toute l'année, à moins qu'ils ne le sentent. Après ce discours de vrai charlatan, il chanta un cantique à la louange de Saint-Laurent, ouvrit la boîte et montra à cette sotte multitude les charbons qu'elle refermait. Et quand il eut donné le temps à tout le monde de les voir et de les admirer, chacun s'empressa de s'en faire remarquer et donna une offrande plus forte que de coutume. Frère Oignon, de son côté, fut libéral de croix et n'épargna point ses charbons à marquer les toiles blanches des hommes et les voiles des femmes, leur faisant entendre qu'à mesure qu'il luisait dans ses doigts, il croissait dans la boîte, comme il l'avait éprouvé dans une autre occasion. De sorte qu'ayant ainsi croisé tous les habitants de Tchérad, à son très grand profit, il s'applaudit de lui-même d'avoir eu l'esprit de se moquer de ceux qui avaient cru lui faire pièce en lui dérobant la plume. Les voleurs avaient assisté à la prédication et furent si contents de la défaite que Frère Oignon avait trouvée et la tournure plaisante qu'il avait donnée à la chose, qu'ils manquèrent de se démonter les mâchoires à force de rire. Et quand l'assemblée fut dispersée, ils joignirent le moine, lui apprirent ce qu'ils avaient fait et lui rendirent sa plume, dont il n'y aura pas moins de profit l'année suivante, qui venait d'entrer dans les chardons, d'en tirer les chardons. Quant à l'assemblée fut dispersée, ils joignirent le moine et lui apprirent ce qu'ils avaient fait, et lui rendirent sa plume, dont il ne tira pas moins de profit l'année suivante, qu'il venait d'en tirer des charbons.